Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadra, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Hélène. C'est lorsque les infirmières libérales de jour regagnent leur foyer qu'Hélène, trousseau de clés à la main, vient prendre soin de ses patients à la tombée de la nuit. Avec sa collègue, elle gère l'un des rares cabinets infirmiers libéraux de nuit. Bonne écoute. Bonjour Hélène.
Bonjour Marielle.
Comment vas-tu?
Eh ben ça va. Je suis contente de pouvoir te présenter mon cabinet qui est un peu particulier. Donc je suis contente que tu aies accepté mon invitation.
Alors ton mail m'a énormément plu. On va parler d'une énième facette du métier d'infirmier avec une spécificité supplémentaire parce qu'on va aborder les soins à domicile et les soins à domicile de nuit puisque tu exerces comme infirmière dans un cabinet qui fonctionne la nuit. Alors on enregistre à 13h30, donc merci Hélène d'avoir peut-être raccourci ta période de sommeil aujourd'hui. Non, t'es sûre, t'es pas en carence de sommeil?
Non, je travaillais pas la nuit dernière et puis mes nuits sont pas si longues que ça, je vais vous expliquer.
Bon, bah super. Hélène, pour commencer, écoute, je te laisse te présenter.
Alors, je m'appelle Hélène, je me suis mariée tardivement, j'ai 52 ans, donc je me suis mariée à 40 ans. Mon mariage a fait que j'ai déménagé, que j'ai changé de ville. Voilà, j'ai eu mon diplôme en 93, donc ça date un peu hein, quand même. J'ai bientôt avoir 30 ans de diplôme. Et dans mon expérience professionnelle, j'ai commencé sur Lyon dans un service qui me plaisait beaucoup, qui était des soins de chirurgie esthétique, mais post-brûlé. Donc j'ai vu toute la chaîne des brûlés. Donc quand j'ai écouté le podcast sur l'infirmière qui était dans le service des brûlés, ça m'a beaucoup parlé, c'était drôle.
Ouais.
Et donc moi j'ai commencé, voilà, j'étais dans le service post-brûlé, mais j'ai aussi fait quelques remplacements dans le service des brûlés. Et puis j'avais fait un stage quand j'étais jeune dans le service de la consultation. Donc j'y suis restée 8 ans, et ce qui m'a permis de vraiment voir tout le circuit que pouvait avoir un brûlé du début de sa prise en charge jusqu'à la chirurgie esthétique. Voilà.
Okay.
Au bout de 8 ans, j'ai un caractère un peu trempé et j'avais changé de surveillante et ça se passait pas super bien. Et j'ai une de mes collègues de mon service qui travaillait à mi-temps et qui m'a proposé de faire du libéral. Et moi, je n'avais pas du tout envie de faire libéral. Je dis non, pour moi, libéral, c'était toilette, dextro-insuline. Je voulais faire beaucoup plus de techniques et je voulais que ça soit plus intéressant pour moi. Donc, j'avais dit non. Elle est partie. Elle m'a dit, moi, je vais faire le remplacement de congé maternité. Ça va me faire du bien, ça va me faire une expérience. Et donc, elle est partie faire ce remplacement. Et en même temps, elle me racontait ce qui se passait à domicile. Et parallèlement, j'avais un de mes amis qui était suivi avec son équipe, pour son papa qui était en phase terminale. Et je me suis aperçue qu'à domicile, on pouvait faire des soins palliatifs, de la cancéro, des grosses prises en charge, vraiment des grosses prises en charge et des grosses prises en charge techniques. C'était le début des prises en charge techniques en 2000. Et j'étais époustouflée et de voir qu'on pouvait finir sa vie à domicile. Et j'avais le côté technique de ma collègue et j'avais le côté familial avec mon amie qui me racontait tout ça. Donc, du coup, je me suis dit, finalement, ça me plaît, je trouve ça génial. Et cette amie me rappelle en me disant, écoute, la deuxième infirmière du cabinet est aussi enceinte, donc il faudrait aussi faire son congé maternité.
Ah, voilà, c'est le destin, là.
Voilà, et j'ai dit, ça, banco, je viens, ouais. je fais les 6 mois de congé maternité, je prends mes vacances, je prends 5 semaines de vacances, et après, je reviendrai pour les 35 heures à l'hôpital. Et puis, c'était sympa aussi de travailler avec elle. Donc, en fait, on était deux remplaçantes sur un cabinet qui tournait bien, quoi. Enfin, et puis, elle me dit, moi, de toute façon, c'est sûr. Hein, moi, j'étais à mi-temps, là, un temps plein infirmière libérale, c'est beaucoup trop pour moi. Je fais ça, ça m'éclate. Mais je ne ferai pas ça tout le temps. Et puis, du coup, elle est retournée à l'hôpital. Et parce que sa collègue est revenue de congé maternité. Et puis moi, je me suis dit, mais c'est super, c'est chouette. Et la fille que je remplaçais n'est jamais revenue dans son poste. Donc, j'ai pris le poste de fait.
Ah, d'accord.
Donc, j'ai commencé pour... je ne voulais pas du tout y aller. J'avais quasiment très peu entendu parler des soins à domicile. Mais j'ai trouvé ça génial.
Et tu avais un peu des a priori aussi sur le secteur en pensant que, voilà, tu disais dextro-insuline, ça veut dire la prise en charge des patients diabétiques à la maison,
ouais,
les toilettes.
C'était pour moi, non, c'était surtout des petits soins, c'était surtout ça. Et puis bon, à l'époque, j'avais 30 ans, j'avais envie que ça bouge, quoi, j'avais envie de choses. Et ça, j'ai trouvé que c'était génial. Et j'y suis restée 10 ans.
D'accord.
Et avec une collègue avec qui je m'étais très bien entendue, qui m'a beaucoup, beaucoup appris. Que je remercie beaucoup, hein, si elle écoute le podcast, c'est Sonia, et vraiment, je la remercie beaucoup parce que j'ai beaucoup appris. Il se trouve que, malheureusement, pour des raisons de planning, je me suis séparée d'elle, et j'ai découvert d'autres infirmières, enfin voilà.
Et le planning, parlons-en, alors comment est-ce qu'on fait tourner un cabinet avec deux personnes? Comment on s'organise?
Eh bien, on travaille 15 jours par mois. Donc, y a des filles qui préfèrent faire 2 jours de travail, 3 jours de repos, 4 jours de travail. Il y en a qui préfèrent faire 7 jours de travail, 7 jours de repos. Moi, au début, quand j'ai commencé à travailler, c'était 7 jours de travail, 7 jours de repos. Et au bout d'un moment, moi, j'en pouvais plus. Le 7e jour, c'était vraiment fatigant. Et je mettais 2 jours à m'en remettre, 2 jours, je faisais mon ménage, et le week-end, et hop, je repartais, quoi.
Donc c'est, quand on dit une journée de travail, en plus, c'est sur une amplitude qui est énorme.
Bah oui, parce que les 2 jours... On commence vers, en général, ça dépend des cabinets, hein, tout est variable, mais en général, c'est vers 6h30, 7h, et jusqu'à souvent 13h, 14h, il y a une pause l'après-midi, et les infirmières repartent vers 5h jusqu'à parfois 20h, 21h, ça dépend, enfin, ça dépend de chacune. Si on ne veut pas beaucoup travailler, on ne prend pas beaucoup de patients, si on veut beaucoup travailler, voilà, ça dépend ce qu'on veut gagner, ça dépend si on est 2 ou 3, et moi, quand j'ai commencé, on était 2, et après, on est arrivé à 3. Et 3, je trouve que c'est bien, parce que ça fait 10 jours par mois, on s'auto-remplace pour les vacances, parce que sinon, quand on n'est que 2 et qu'on ne prenait pas de remplaçante, c'était le cas au début où j'étais en libéral, quand on voulait prendre des vacances, comme on n'a pas de congé payé, on remplaçait notre collègue pendant 3 semaines pendant qu'on était en vacances, et après, nous, on prenait 3 semaines.
Donc, oh, l'avantage, 21 jours d'affilée, oh là 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 là.
Ah oui, 21 jours d'affilée, quand il fait chaud, avec les canicules, bah, c'est une des raisons, c'est en 2003, la première canicule, ma collègue avait fait 3 semaines en été. Au moment de la canicule, moi, j'avais appelé plusieurs fois. Elle me dit non, mais t'inquiète, ça va. Et en rentrant, elle me dit plus jamais. Plus jamais, c'est épuisant, quoi. Enfin, voilà. Mais bon, c'est pas toujours facile, le libéral, quand même.
Oui, oui, oui.
Quand j'ai payé les vacances, les arrêts maladie.
Oui, c'est pas un détail, tout ça.
Tout ça, ça compte. Hein. Moi, j'avais d'ailleurs dit à ma collègue, je te préviens, le jour où j'ai des enfants, je ne ferai plus libéral parce que je veux avoir... des horaires plus faciles pour une nounou. Bien sûr. Il se trouve que j'ai pas eu d'enfant. Voilà. Donc, je me suis mariée en 2010. Donc, j'ai quitté mon cabinet avec beaucoup, beaucoup de tristesse.
Ouais, du coup.
J'ai pas mal de mes patients que j'avais, qui savaient que je me mariais et qui sont venus à mon mariage, à la messe, hein, et au vin d'honneur, pas toute la cérémonie, mais voilà. Donc, ça m'a beaucoup touchée, des patients qui étaient en fauteuil. Enfin,
Ça prouve le lien qu'on tisse avec les patients.
Oui, et puis en faisant beaucoup de soins palliatifs, il y a des familles... voilà, j'ai par exemple un de mes premiers décès, c'est un monsieur qui est décédé le 4 février 2001. Pendant des années, le 4 février, j'appelais sa famille, quoi. Et il avait des enfants qui étaient petits à l'époque, que j'ai vu grandir. Ça a été difficile de leur dire, ton papa est à côté et il va partir, donc il est en train de mourir, là, donc il faut qu'il aille le voir. Donc on quitte vraiment, enfin c'est, on est vraiment, on n'est plus les dominants quand on est libéral, parce qu'on est vraiment chez le patient et on s'adapte au patient. Bref, donc en 2010 je me marie, je change de région, non pas de région, de département, et en changeant de département, bah, je quitte mon cabinet avec vraiment beaucoup de tristesse. Et j'essaye ici de trouver des remplacements à droite, à gauche, parce que je me suis dit, c'est pas la peine que je me monte mon cabinet ici. Moi, je connais pas les hôpitaux, je connais pas les médecins, je sais pas, autant rentrer dans un cabinet. Et puis, j'ai essuyé plusieurs cabinets. Et là, c'est là où on voit un peu la guerre des cabinets qui se déchirent un peu entre elles. Des infirmières qui sont pas contentes, qui se séparent et qui vont avec, qui coupent le cabinet en deux. Enfin, bref, j'ai pas trouvé mon compte. Et puis, parallèlement, en parler de cabinet infirmier de nuit sur Grenoble. Et là, ça m'intrigue beaucoup parce que je me dis, ben voilà, donc, parce qu'en fait, comme je suis un peu entre Grenoble et Chambéry, je m'étais dit, ben pourquoi pas travailler sur Grenoble, mais aller 2 fois sur Grenoble par jour, avec la coupure, c'était trop compliqué. Mais oui, effectivement, la nuit, c'était pas mal. Et puis moi, je suis plutôt un oiseau de nuit, j'ai plutôt tendance à me coucher un peu tard, à me lever tard le matin. Donc, ça m'allait pas mal et puis ça a changé. Donc, j'en ai discuté avec plusieurs personnes. J'ai failli rentrer dans un cabinet de nuit sur Grenoble. Et puis, c'était à une époque où mon frère était en soins palliatifs à la maison et était décédé. Et du coup, je me suis dit, non, c'est pas le moment. Enfin, voilà, j'ai laissé tomber. Et puis, un mois après, ça m'a repris. Mon mari m'a dit, mais Hélène, tu connais les soins, tu connais le libéral, mais pourquoi tu ne montes pas ton propre cabinet dans notre ville? Donc, je me suis dit, bah, oui, enfin, c'est quand même. Tu te lances avec zéro, hein, donc t'as pas de
Voilà.
salaire, t'as rien du tout.
Et puis on ne peut pas publiquement faire sa publicité, comme t'en parlais tout à l'heure, mais donc on se rapproche de professionnels pour essayer de se faire connaître, on essaye par le bouche à oreille, etc. Mais en effet, c'est redémarrer de zéro quand on ne reprend pas une
C'est ça.
patientèle déjà existante.
Alors j'avais 16 ans de libéral, mais en nuit j'avais jamais fait. Et
Eh
même
oui.
si je connaissais des infirmières sur Grenoble, sur Chambéry, c'était pas facile de se faire connaître. Et puis quand on appelle pour se faire connaître, déjà, je m'étais dit, c'est pas la peine que j'aie mon propre cabinet, je pourrais me mettre avec une infirmière de jour. Et quand je leur ai dit ça, ils me disent, mais tu viens me piquer la clientèle, qu'est-ce que tu veux? Enfin, ça a été un peu compliqué au départ de se
Ah
faire
ouais.
connaître. Et puis, sur Grenoble, il y a 12 cabinets de nuit, donc ça circule bien et c'est très connu. Mais je pense que c'est la seule ville où c'est aussi connu. Je sais aussi qu'il y a un cabinet de nuit sur Lyon. Et à ma connaissance, j'en sais pas plus, quoi.
Pas
J'en connais
beaucoup
pas
plus,
d'autres.
d'accord. Ouais.
Ici, il y en a un à Aix-les-Bains maintenant.
D'accord.
Et j'avais lu quelques articles et tout le monde m'avait dit, mais de toute façon, la sécurité sociale ne voudra pas parce que tu leur coûtera plus cher. Donc tu vas avoir des problèmes. Et puis c'est interdit. Donc c'est vrai qu'effectivement, au niveau de la Sécu, c'est pas simple parce que ben, la majoration de nuit a son prix quand même. Hein. Il y a deux majorations de nuit. C'est avant 11 h, c'est 9,18 €. Et après 11 h, c'est 18,60 €, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, je n'ai pas les centimes en tête, mais c'est à peu près.
Oui, donc
Effectivement.
chaque soin représente un acte et chaque acte, représente une somme d'argent
Voilà,
donnée.
c'est ça.
Et puis après, il y
Et
a les horaires de
donc,
jour et les horaires de nuit.
voilà. Donc, un acte de jour, ça vaut, je veux dire, 10 francs. Et un acte de jour, le même acte fait la nuit, ça vaut 10 francs plus 9,18 € ou 18 € suivant l'heure du soin. Et donc, c'est vrai qu'il faut justifier de ce passage. Je vais effectivement pas aller faire des pansements à des gens qui travaillent à 22 h parce que ça les arrange et qu'ils sont rentrés chez eux, qu'ils ont pris leur douche et qu'ils sont. Ça, non.
C'est ça.
Ça, je ne fais pas ce genre de soins. Je vais pas non plus aller faire une prise de sang à quelqu'un. Voilà. Enfin, il y a des soins que je ne fais pas.
Oui, on n'est pas là pour
Prioritairement.
arranger monsieur et madame tout le monde, quoi. C'est vraiment la
Voilà.
justification du soin de nuit.
Tout à fait. Comme exemple, ma première patiente m'a connue par les APF, donc les associations de Paris et de France. C'était une dame qui avait 70 ans à peu près, qui habitait dans une grande maison et qui logeait des jeunes filles. Je pense que c'était pour financer sa maison, parce que c'était une maison familiale et elle était plus que toute seule. Elle logeait des jeunes filles qui étaient étudiantes et qui devaient lui louer un petit salaire, un petit loyer. En échange, elle mangeait avec elle, ça. Donc, c'est une dame qui était en fauteuil, mais qui ne pouvait plus faire ses transferts. Faire son transfert, c'est se déplacer de son fauteuil à son lit pour se coucher. Et elle ne pouvait plus faire ça toute seule. Et se déshabiller avec sa pathologie toute seule, ce n'était pas possible. Elle avait besoin d'un change. Donc, et elle ne voulait pas se coucher avant 9 h, 9 h 30 le soir. Ce qui est assez légitime. Et elle voulait
C'est
manger avec
ça.
ses jeunes filles pour bah, avoir un contact avec elle. Et en fait, elle ne trouvait personne. Donc quand elle m'a appelée, mais je lui ai pas sauvé sa vie, mais je lui ai permis d'avoir une vie sociale. C'était une dame qui avait une énorme culture, notamment une énorme culture musicale, et qui aimait de temps en temps aller au spectacle, aller au concert. Ben, elle me disait, Hélène, ce soir je vais au concert. Ben, écoutez, très bien, moi je viendrai vous coucher à minuit. Et ça ne me dérangeait pas.
Et elle a tout à fait le droit, c'est légitime de se coucher à l'heure
C'est
qu'elle
ça.
souhaite. Il ne faut pas que son
C'est ça.
handicap soit un frein
C'est
dans une
ça. On
vie,
n'a pas
tout
le
à
droit
fait
d'être.
classique.
Moi je dis toujours, on n'a pas le droit d'être malade et puni.
C'est ça, ouais. C'est la
Après,
double
j'ai
peine
eu.
sinon, hein.
J'ai eu des. Là, en ce moment, actuellement, j'ai deux jeunes patients. Enfin, pour moi, c'est des jeunes patients. Hein. Ils ont 40 et 50 ans. C'est des jeunes qui sont handicapés dans des fauteuils, qui ne peuvent pas se coucher tout seuls. Et jusqu'à maintenant, ils ont un appartement à eux. Mais jusqu'à maintenant, c'était leur maman qui venait les coucher. Donc c'est un peu compliqué d'avoir une vie. Une vie, quoi, simplement une vie. Il y en a un qui m'a dit,
Ouais.
à un moment, il avait rencontré quelqu'un, me dit « Ah mais Hélène, vous êtes mon alibi, parce que avec tes collègues, vous venez me coucher quand, ça m'arrange. » Il a toujours une heure de coucher normalement, mais quand il sort le soir, on sait, et il sait très bien qu'on peut déranger. Une fois que tous nos patients, après 23h, 23h30, une fois que tous nos patients sont couchés, les soins qu'on fait après, c'est des gens qui sont dans leur lit, qui peuvent nous attendre. J'expliquerai après un peu ce qu'on fait comme soin. Et du coup, effectivement, ce patient, il pouvait rencontrer sa douce tout le temps, enfin quand il voulait, sans avoir à dire à sa maman « Ah ben ce soir, je vais au restaurant, est-ce que tu peux me coucher plus tard ?»
Ouais.
Et c'est un garçon qui a une joie de vivre, qui pète la forme, qui a fait toujours des tas de trucs. Et c'est un fan de handball. Quand il va avoir des matchs, on va le coucher. Il me dit « Oh, tu viens après la troisième mi-temps ?» Alors parfois, il arrive, il est tout guiré parce qu'il a eu un super match. Voilà, il est hyper content qu'on le couche.
Et vous arrivez à avoir un planning un peu flexible. Alors, je ne sais pas, une façon de communiquer par SMS pour dire « Envoie-moi un message quand tu souhaites que je repasse. » Comment est-ce que vous arrivez à établir des choses comme ça pour que ça soit spontané quand même ?
C'est ça. Alors, généralement, ils nous préviennent à l'avance. Ils nous disent « Demain, je sors » ou « La semaine prochaine, tel jour, je serai là, tel jour, je ne serai pas là. » Donc on arrive tout à fait à planifier. Quand c'est du dernier moment, ça nous arrive, mais c'est vraiment hyper rare quand même. Non, ils savent très bien quand ils vont sortir. Par contre, comme les infirmières de jour, on a un planning avec un horaire fixe chez des gens. Donc nous, on commence le soir avec une petite fille, enfin maintenant qui est une jeune adolescente, qui a besoin d'un sondage parce qu'elle ne peut pas uriner toute seule. Donc, il faut lui passer un petit tuyau dans la vessie. Et elle le fait et il y a des gestes qu'elle ne peut pas faire toute seule. Elle a besoin d'être un peu aidée. Et puis, on commence par elle. Donc, effectivement, elle, on y va un peu tard, mais elle n'est pas encore couchée. Après, il y a des gens qu'on couche. Et puis après, il y a d'autres personnes qu'on sonde, mais plus tard dans la soirée, c'est ce qu'on appelle le dernier sondage avant la nuit. C'est des gens qui ont besoin d'un dernier sondage vers 22h, 23h, minuit. Comme ça, après, ils sont tranquilles et ils sont sondés jusqu'au lendemain matin.
Jusqu'au lendemain. Que l'infirmière arrive. Et après, l'équipe de jour reviendra lendemain pour venir les voir.
C'est marrant parce que du coup, j'ai découvert beaucoup, beaucoup d'infirmières et d'équipes de jour, puisque nous, 95% de nos patients ont des infirmières de jour. Que si on vient, c'est qu'il y a vraiment un besoin. Et du coup, ça m'a permis de connaître pas mal d'équipes sur ma vie que je ne connaissais pas. Et puis, le Covid a fait qu'on s'est beaucoup, beaucoup regroupé. On s'est beaucoup rencontrés, on s'est beaucoup vus, on a monté des groupes WhatsApp. Et je trouve que pour ça, le Covid a été bien parce que ça a enlevé un peu certaines barrières des équipes libérales entre elles.
Oui, et puis même si tu sais qu'elles sont là, toutes ces infirmières, finalement, vous vous croisez peu ou pas, parce que donc vous êtes là la nuit, pendant qu'elles travaillent, vous êtes en train de dormir, et puis vice-versa.
Mais même quand je travaillais de jour, on ne se croisait pas beaucoup. On se croisait au laboratoire, on se disait à peine bonjour.
Ouais.
Voilà, tu travailles un peu sur mes plates-bandes, tu travailles dans mon quartier, tu vas me piquer mes patients. Enfin, il y a quand même cette idée-là qui a beaucoup diminué,
je trouve,
avec les confinements, avec l'entraide. En tout cas, là où je travaille, ça a été vraiment... impressionnant de voir. Maintenant, il y a une association d'infirmières libérales qui sont montées de Chambéry. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place et c'est vraiment sympa.
Bon, le Covid aura quand même fait du bien sur certains aspects. Voilà, ouais. En voilà un.
Et puis après, donc, je vais coucher pas mal de personnes. Et puis, je vais aider aussi des aidants. Parce que des personnes à domicile qui... j'ai le cas notamment d'une fille. Son papa était Parkinson, et les Parkinson, ils sont des grands spasmes, c'est-à-dire qu'ils deviennent tout raides, et quand ils sont fatigués, c'est assez compliqué de faire les transferts pour les mettre du lit au fauteuil, pour les emmener aux toilettes, et elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus du tout, et du coup, c'est une de mes collègues infirmières qui m'a dit, bah, écoute, viens, va chez elle, parce qu'elle n'y arrive pas, et elle a pu, comme ça, accompagner son papa jusqu'à la fin, quasiment, hein, là, il est resté 15 jours à l'hôpital à la fin, mais... Voilà, c'était bien pour elle et ça la soulage aussi parce qu'il y a des gens qui, quand on est un peu âgé, quand on est Alzheimer, quand on est Parkinson, on n'a pas forcément envie que ça soit sa fille, son fils, sa femme qui le couche.
Bien sûr.
Et puis, ben, si c'est sa femme, elle a en général le même âge que la personne malade et elles n'en peuvent plus, quoi. Donc, c'est aussi faire le maintien à domicile. C'est aussi permettre d'être chez soi le plus longtemps possible. C'est faire un change au milieu de la nuit parce que une dame qui est hémiplégique, elle est continente, c'est-à-dire qu'elle sait se retenir, mais qu'elle peut pas se lever toute seule. Et ben, si je l'emmène pas, elle est obligée d'avoir des protections et de faire sur elle, de se sentir faire sur elle. Si je passe la nuit, ben, elle se lève avec moi, on va aux toilettes, elle est sécurisée, elle risque pas de faire de chute, et elle se couche, elle est propre. Et elle reste propre toute la nuit. Donc voilà. Donc c'est pas forcément des soins hyper glorieux. Hein. Je sauve pas le monde, mais juste je permets à des personnes qui peuvent pas se coucher toutes seules d'avoir la possibilité de se coucher plus tard
et d'avoir une continuité des soins, quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit.
C'est ça. La première fois qu'on a travaillé avec des infirmières libérales de jour, c'est une équipe qui m'a appelée en me disant "Écoute Hélène, on a une patiente, elle n'urine pas la journée. C'est comme ça, elle urine pas la journée parce que par contre la nuit, elle se vide complètement." Et nous, on la couche le soir et le matin, mais tout est trempé, le lit, le matelas, ça traverse. Enfin, c'est et donc on a des questions de facturation. Et elles avaient déjà la facturation maximum pour cette patiente. Je dis même si je passe, je peux pas passer parce que je peux pas me payer. Elle me dit c'est pas grave, on te laisse un acte, on te donne un acte. Et j'ai trouvé ça, c'était vraiment chouette de leur part.
Ah ouais.
Et on en a discuté après. Elles m'ont dit mais en fait. Effectivement, on a perdu un peu d'argent, mais on gagne un temps parce que le matin, au lieu de mettre une heure et demie à la changer, à la nettoyer, machin, on passe, c'est beaucoup plus rapide et on voit que cette personne, elle est mieux.
Eh ben oui, forcément.
Donc voilà. Donc on a
parce qu'on peut, atteindre un certain nombre d'actes comme ça qu'on n'a pas le droit de dépasser pour une question de facturation et de remboursement.
Alors c'est même pire que ça. Avant, on ne pouvait pas dépasser un certain nombre d'actes, c'est-à-dire 4 IS3 par jour. Donc c'est un peu technique, mais en gros c'était ça. Sauf que maintenant on est passé sur une facturation à forfait. Donc on vous dit un patient ça vaut tant. Voilà. Sauf que le forfait il faut arriver à le diviser entre nous et les filles de jour. Il faut que il y a trois bases de forfait et nous quand on a des patients c'est forcément des patients qui sont très lourds. Donc déjà par rapport à 4 IS3 le forfait est moins intéressant financièrement. Donc ça pose un réel problème. Et nous, sur du long terme, on risque d'avoir ce problème qui va se majorer parce qu'on ne va plus savoir trop comment facturer les patients. Donc ça, c'est un souci qu'on a. Alors malheureusement, je pense qu'on va arriver dans une société où les patients qui auront de l'argent pourront prendre des gens, peu importe qui viendront chez eux, moyennant... une des sommes, et puis les autres, ils feront avec le minimum syndical. J'ai quand même un peu le sentiment, moi, après 30 ans de médical, qu'on va de plus en plus vers
une santé à deux vitesses.
Une santé américaine.
Ouais.
Donc voilà. Après, en même temps, ce qui est très paradoxal, c'est que le ministre nous parle de maintien à domicile, d'aide aux aidants.
Mais c'est ce que j'allais dire. On est dans cette envie de favoriser le maintien à domicile, l'hospitalisation à domicile, parce que les hôpitaux débordent et que toutes les questions sur la fin de vie, sur on entend parler des débats sur l'euthanasie, etc. Puis à la fois, on n'est pas du tout en accord avec les décisions qui sont prises
c'est
en
ça.
Ce moment.
Alors on va dire oui, mais c'est à cause du Covid, oui, mais c'est à cause de ci, oui, mais c'est à cause de ça. Je trouve qu'il y a deux discours et qui sont complètement antagonistes. Et, moi, je me pose beaucoup de questions sur... je suis contente d'être entre guillemets en fin de carrière, parce que je ne sais pas ce que ça va donner dans 10 ou 15 ans. Moi, j'ai encore 10 ans au minimum, voire 15 à faire. Je ne sais pas du tout ce que ça va devenir d'ici les infirmières libérales. Est-ce qu'on va encore exister ou est-ce qu'on sera salarié? Je ne sais pas. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Pose de bas, c'est pas nomenclaturé, donc tu n'es pas censé le facturer.
C'est pas vrai.
Voilà, par exemple une tension, aller prendre une tension chez un patient, si le médecin te met vraiment sur l'ordonnance qu'il veut une tension, tu peux pas le facturer. Donc donc c'est un peu compliqué. Dans la nomenclature, il y a des mots très particuliers qu'il faut mettre, sinon tu es retoqué par la police. Donc,
les contrôles sont fréquents et sont assez agressifs. Je veux dire, t'as la sensation qu'on vient régulièrement vérifier si ce que tu fais est dans les clous.
Oui, en même temps, c'est un peu le jeu, c'est normal, mais comme il faut vraiment mettre les mots, vraiment. Moi, je sais que par exemple, la nuit, il faut que je fasse très très attention à mes ordonnances parce qu'il faut que je justifie la nuit. Moi, ça m'est arrivé que la Sécurité sociale appelle les médecins prescripteurs en disant non, mais il ne faut pas mettre de nuit à cette patiente parce que vous comprenez, ça coûte cher. J'ai un super médecin qui me dit ok, écoutez, vous prenez votre petite manette et puis vous allez la coucher, la patiente, parce que cette patiente, une autre patiente qui a 50 ans, ses parents ont 70 ans, Ils l'ont pris en charge toute leur vie. La maman est tombée malade, le papa est tombé malade, donc la maman ne peut plus physiquement coucher sa fille, qui a quand même un certain poids, qui a, voilà, la sécu a fait m'a embêtée pour que j'aille chez cette fille, cette patiente. Oh.
Donc la sécu, elle voudrait que cette dame, elle soit couchée à 20h le soir. Ça arrangerait tout le monde, ça coûterait moins cher.
Avant 20h.
Avant 20h, ouais.
Ou alors qu'on y aille, mais que ça soit nous, on dit, bah, tant pis, c'est après 20h, mais on fait cadeau. Soit c'est le patient qui nous paye
le
dépassement d'honoraires tous les soirs. Quoi. Donc il y a des mots très précis pour mettre sur l'ordonnance. Pour justifier, mais... Effectivement, je comprends que ça coûte cher à la sécu, mais... cette patiente, on en aurait fait quoi ? La maman, qui d'ailleurs entre-temps est décédée, ne pouvait plus du tout s'occuper de sa fille. Quoi.
Ouais, et puis on parle de liberté, quoi.
C'est ça.
Mener une vie, tout ce qu'il y a de plus classique. Quand c'est la maladie et le handicap s'invitent, on sait à quel point c'est difficile d'obtenir une vie comme celle qu'on rêve. Mais si en plus de ça, on a cette difficulté supplémentaire, c'est affreux. Donc c'est cette sensation de toujours devoir se battre contre une régulation qui n'a pas l'air de comprendre ce pourquoi tu es là.
En fait, c'est ça qui est bizarre. C'est-à-dire que moi, je suis allée à des réunions organisées par la Sécurité sociale où on parlait de bienveillance, de bienveillir, où on t'explique que les patients ont besoin de se coucher... à des heures particulières, c'est pas la peine de coucher quelqu'un qui a Alzheimer quand c'est pas son heure chronologique de se coucher. Si tu le couches à 8 heures, ça sert à rien. Si il est énervé, il va taper sur les barrières, c'est pas comme ça que ça. Et l'aidant va pas pouvoir faire grand chose. Et au bout d'un moment, l'aidant, il va péter des plombs, quoi. On nous parle de personnes qui ont besoin de ventilation non invasive. Ça, c'est des appareils qu'on met sur le nez et la bouche pour les gens qui rouffent ou qui font des apnées du sommeil. Il y aurait 60% des personnes âgées qui en auraient besoin, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas forcément les mettre. Effectivement, c'est pas nomenclaturé, donc moi je peux pas y aller pour leur mettre ça, et du coup les gens dorment pas très bien, donc il y a des choses qui sont un peu
c'est complètement contradictoire,
c'est vraiment dommage.
Ouais.
Et moi j'aimerais connaître s'il y a d'autres cabinets infirmiers de nuit sur la France, faites-moi signe, parce que moi je rêve que d'une chose, c'est qu'on arrive à se donner la main et qu'on fasse quelque chose d'intéressant au niveau national, parce que je pense que ça éviterait les hospitalisations, ça éviterait les chutes la nuit pour des personnes qui se lèvent toutes seules, ça éviterait des rentrées en EHPAD, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à la maison entre les infirmières, les auxiliaires de vie. C'est vrai que la nuit c'est compliqué, que les familles sont parfois loin, et que juste savoir que on vient voir votre papa ou votre maman la nuit juste pour un soin ou pour un change, ou ça rassure, quoi.
Ouais,
nous on a un petit monsieur qui se levait et qui tombait systématiquement, quoi. Il est tout petit, tout maigrichon, mais il est adorable, il a un sourire jusqu'aux oreilles et c'est un bonheur d'aller chez ce monsieur. Au moins maintenant il se lève plus tout seul, il sait qu'il doit nous attendre et il tombe plus, quoi.
Et si on regarde ça d'un côté très pragmatique et uniquement avec des chiffres, tout cet argent qui est économisé aussi, si vraiment on part sur ce principe-là, si on dépasse l'aspect humain, voilà, ce monsieur ne tombe pas, bien sûr, ne se blesse pas, il sera en bonne santé, mais c'est évidemment toutes ces complications derrière qui sont évitées aussi. Cette dame dont tu parlais qui urine essentiellement la nuit, si on part du principe qu'il faut lui faire venir des infirmières uniquement la journée et pas la nuit, on perd complètement le sens du soin.
Ah surtout que cette dame, elle a perdu ses escarres, entre parenthèses. Elle avait un état cutané qui était fragile. Nous, on venait, on la changeait, donc elle n'était plus dans le pipi. On la massait, on la mettait on la changeait de position. Et du coup, au niveau cutané, ça a été un changement radical pour elle. Donc ça veut dire aussi pas de douleur, aussi pas de pansement. Il y a quand même pas mal de choses.
Oui, donc pas de soins derrière, donc pas de complications. Donc voilà, si on tire le trait, on va beaucoup plus loin, quoi. Ouais,
donc des handicapés qui ont une vie normale, des personnes âgées qui... En même temps, je me dis, quand on est enfant, nos parents viennent, nous changent. Ça pose pas de problème la nuit, ils nous donnent le biberon, ils nous changent. Qu'est-ce que je fais de plus que de la bienveillance envers nos personnes âgées, quoi. Pas plus. Sauf que ça a un coût, effectivement. Mais en EHPAD, ils ont des changes aussi, hein, donc je trouve que c'est la même chose.
Mais bien sûr,
que c'est pas
l'EHPAD. La nuit se déroule et elle est bien chargée en termes de rythme en EHPAD aussi. C'est bien la preuve qu'on a besoin de vous.
Et pour en revenir à mes horaires de nuit, on en a parlé tout à l'heure. En fait, je commence vers 20h, parfois vers 20h moins le quart, 19h45. Mais par contre, à partir de 1h, 2h du matin, sauf quand on a des soins vraiment particuliers ou ou qu'on a beaucoup de travail, généralement, je suis chez moi. Donc, ça me fait quand même des nuits. Si je le compare au travail de fille de jour, je fais l'horaire du matin sans avoir la tournée du soir.
C'est ça, comme si tu ne retournais pas au deuxième...
Quand j'ai fait mes derniers changes à 1 ou 2 heures du matin, mes collègues qui commencent vers 6-7 heures, ça laisse quand même de la marge. C'est quand même, mes patients sont quand même bien, tu vois.
Oui, elles prennent le relais assez tôt, donc ça te permet d'avoir une nuit relativement courte avant ça. Okay.
Donc ça me permet aussi, pendant le Covid, moi j'ai beaucoup aidé, notamment j'ai fait beaucoup de PCR dans un laboratoire, parce qu'ils avaient besoin de monde, qu'à un moment ça débordait, et du coup je me levais un peu tôt, mais c'est pas grave, je faisais la sieste l'après-midi, ou j'y allais sur des jours de repos. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir fait d'autres choses. J'ai fait aussi un petit peu, à une époque, j'étais un peu infirmière coordinatrice dans une maison. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que un des derniers podcasts que tu as fait, c'était sur une infirmière coordinatrice.
Oui.
Et j'ai fait la formation l'année dernière.
Justement, génial.
En vue de changer, au vu de faire quelque chose, de changer d'ici quelques années.
Ça m'a fait rire. La formation d'IDEC.
Voilà. Que mes chats s'appelaient, parce qu'ils sont tous les deux morts, mais s'appelaient Compresse et Hugo. Ça m'a fait rire de savoir que ton podcast s'appelle Compresse Esparadra.
C'est un signe, Hélène.
ça m'a fait rire.
Donc ça veut dire que tu prépares déjà la suite, en tout cas t'envisages une autre carrière pour les années qui viennent.
Je vais me donner un dernier challenge professionnel, ici ou ailleurs, ici ou à l'expatriation, on ne sait pas trop.
Aussi
un projet de partir, donc on a aussi le projet de partir vivre peut-être ailleurs, donc ça m'a fait aussi rire d'entendre certains podcasts que tu as envoyés, donc... Donc ça c'est les projets, oui, parce que j'ai encore quelques années de carrière à faire, et si je pouvais donner un dernier challenge à mon métier, ça serait bien, quoi.
C'est sûr.
Après 22 ans de libéral, faire encore une dernière chose, ça serait pas mal.
Est-ce que tu as des conseils pour des personnes pour des infirmiers, des infirmières qui justement hésiteraient à se lancer en libéral, comme toi, t'as pu hésiter il y a une vingtaine d'années?
Alors, le libéral, c'est pas forcément parce qu'on est libéral qu'on va gagner des 1000 et des 100. Donc ça, il y a la moitié de ce qu'on gagne qui passe dans nos charges, entre la sécurité sociale, entre l'URSSAF, la retraite, nos charges. Mmh. Voilà. Donc, faut pas croire que c'est un Eldorado et que c'est mieux qu'à l'hôpital. Mmh. Mais c'est super intéressant. En même temps, c'est une façon d'être entrepreneuse. C'est super, mais on n'apprend pas du tout ça à l'école. On n'apprend pas du tout, on sait rien du libéral, on ne sait pas comment on s'organise, on ne sait pas comment on fait. Même si on fait un stage, il y a quand même plein de travail derrière, administratif, qui nous prend un temps fou, qui prend beaucoup moins de temps la nuit d'ailleurs. Parce que d'abord, j'ai plus de temps la journée, et puis parce que comme c'est des patients chroniques, j'ai beaucoup moins d'ordonnances, ça change moins, j'ai pas des prises de sang par-ci par-là, des petits gestes.
Le pansement du monsieur qui vient de se faire opérer, qui a fait un pansement pendant 2 semaines.
Les anticoagulants, les machins. Moi, j'ai effectivement, le côté sympa et le côté aussi compliqué de la tournée nuit, c'est que c'est toujours les mêmes patients, aux mêmes heures, avec les mêmes soins. Donc nous, on les connaît par cœur, on sait bien leurs petites manies, il faut mettre ça à tel endroit parce qu'il faut qu'ils puissent s'attraper, le verre à tel endroit, la sonnette, le téléphone portable, la télécommande, pas oublier d'éteindre la lumière parce que sinon, ils sont donc ils vous rappellent en disant « t'as oublié d'éteindre la lumière ».
Ça là, j'ai pas
retourne. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de circulation la nuit, donc tu y retournes.
C'est vrai.
Donc et en même temps, il y a des jours où on se dit, oh là là, ça va être encore le même patient qui va nous dire la même chose. Mais bon.
Oui. On sait en même temps. La prise en charge de patients chroniques, c'est ça aussi.
C'est ça. C'est ça aussi. Ouais. Mais bon, après, c'est aussi des liens qu'on crée avec eux, avec leur famille, avec leur vie, et on se rend compte que le peu de temps qu'on reste chez eux, si on reste une demi-heure juste pour les coucher, eux, ça leur change leur vie.
Ouais, c'est ça.
Vraiment.
Ouais, on n'est pas juste l'infirmière, quoi. C'est la personne qui leur permet d'avoir une vie un peu plus normale, quoi.
Et puis les angoisses de la nuit. Les angoisses de la mort, la nuit.
Tu le ressens, ça?
Chez certaines personnes, oui. De contente de nous voir... des dialogues qui s'installent. Ça nous est arrivé d'avoir pendant quelques temps une dame qui avait besoin juste qu'on vienne pour lui donner des médicaments, et on sentait que notre passage la nuit, c'était très important.
Bouée de sauvetage, quoi. Ouais.
Ouais.
Même et puis pourtant... ce lien qu'on tisse avec les gens aussi, moi j'ai fait un stage en libéral, c'était en fin de deuxième année d'école d'infirmière, si je me souviens bien. Et moi, je sortais des stages en hospitalier qui étaient très carrés, tu sais, en cardiologie, tu fais ci, tu fais ça, dans l'ordre, ta, les protocoles, etc. Et je suis arrivée en libéral et j'ai l'impression que tout vole en éclats parce que, alors bien sûr, il y a des protocoles, on fera toujours un pansement de façon stérile, etc. Mais on passait dans la rue, l'infirmier me disait, ah, tu vois, cette boulangerie, il faut que je m'arrête. Je prends une baguette parce que je vais voir Madame Machin, rue, truc. Et je sais que là, sa fille, elle est au Maroc pendant 2 semaines. Donc, elle m'a demandé de prendre du pain. Alors, récupère le pain. Bah, monsieur Machin, il faut récupérer le courrier dans la boîte aux lettres. Mais la clé, elle est cassée. Alors, la clé, il me l'a planquée sous le caillou, au fond du jardin. D'accord, très bien.
C'est ça.
Et c'est que des petites habitudes, mais c'est la beauté du métier aussi.
Nous, on a un trousseau de clés énorme. On ressemble, c'est pire que Saint-Pierre. On a un trousseau qui est énorme. Parce que quand on part, il faut bien fermer la porte. On a ça. Ou alors, on a des codes par-dessus la tête parce qu'on a beaucoup de gens qui ont des boîtes à clés avec des codes. Donc, qui sont cachés derrière les maisons, derrière un arbuste. Donc, ça, c'est drôle. Donc, on y va à la lampe de poche. Il y a des personnes chez qui il faut tout allumer. Il faut tout éteindre. Et d'autres personnes, il faut laisser une lumière. Il y a certaines personnes, il y a un monsieur, il me fait rire parce que le chat a bien compris à quelle heure on venait. Et du coup, il est toujours devant la porte. Et si jamais il n'a pas de croquettes dans sa gamelle, il nous fait des ronds de jambes et il se colle à nos jambes pour juste qu'on lui donne des croquettes et après il repart.
Il a tout compris, lui.
Et lui, il a tout compris. Hein, il est bien drôle. Mais c'est effectivement la nuit, en libéral, c'est comme ça, quoi.
Ouais, quand on est aide-soignant à domicile, infirmier à domicile, on est bien plus que aide-soignant ou infirmier à domicile.
C'est ça.
Bah merci Hélène, hein. Merci beaucoup.
T'en prie.
Je pense qu'on va pouvoir passer au petit portrait chinois. J'ai encore d'autres petites questions à te poser.
D'accord.
La première, que dirais-tu à la Hélène d'il y a 10 ans?
Ben, tu vas trouver une super idée. Voilà, t'inquiète pas, tu vas rester dans le libéral, tu vas trouver une super idée.
Ah, trop bien. Question suivante, qu'est-ce que tu as appris pendant l'exercice de ta profession et que tu n'avais pas appris pendant tes études?
Bah, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, tout ce qui était entrepreneuriat, gestion, comptabilité. Après, on peut apprendre aussi que malheureusement, certains soins, ça moi je m'en étais rendu compte à Lyon surtout, que certains soins ne sont pas rentables. Quand on vous demande de faire une piqûre à 18h, à ne serait-ce que 1 km de votre cabinet, mais que c'est à une grande heure de circulation et que pour y aller, vous mettez 20 minutes, plus 10 minutes pour se garer, plus 20 minutes pour repartir, ça fait une heure de soins pour 8 € brut. Malheureusement, il y a des moments où on se dit, c'est pas trop rentable et je peux pas perdre du temps. C'est pas tant l'argent qu'on perd, c'est le temps aussi pour aller chez ces gens-là qui va nous empêcher d'aller chez d'autres. Ouais. Donc voilà, c'est là où on comprend aussi que la santé a un coût. Que parfois, savoir comment être avec faire du management, parce que en libéral, on a d'autres collègues avec qui il faut travailler, savoir faire un peu de relationnel avec les médecins, de professionnel à professionnel, parce qu'on a besoin d'avoir de la discussion avec eux aussi, enfin tout plein de choses hormis les soins techniques, finalement tout ce qui est art de vivre, on n'apprend pas ça.
C'est tellement vaste et en effet, c'est pas du tout abordé pendant les études. Il faut tout apprendre sur le tas, c'est encore plus difficile. La question suivante, la chanson qui te booste quand tu as un coup de mou.
Alors ça m'a fait rire parce que ça, c'est un vieux truc de ma génération, c'est Nirvana.
Ah bah ouais, écoute, c'est un grand classique. Hein.
Mais quand je me mets ça dans la voiture, ça me réveille.
Déjà.
Quand je suis bien énervée, ça me pose. C'est drôle.
C'est vrai. Question suivante, la plus belle phrase qu'un patient t'ait dite.
En fait, c'est juste merci, quoi. C'est juste le mot merci. Et j'ai travaillé au début, quand je travaillais en chirurgie réparatrice, il y avait aussi de l'ORL dans le même service. Et les gens qui arrivaient avec des trachéotomies, avec des tuyaux de partout, et qui récupéraient leur petite tablette blanche, et la seule chose qu'ils savaient écrire, le premier mot qu'ils écrivaient, c'était merci.
Oh, ouais.
Et en retour de bloc, c'est juste un truc, c'est voilà. Et puis il y a des patients qui tous les soirs, j'ai une patiente qui tous les soirs me dit merci Hélène ou merci à ma collègue. Et ça a pas de prix, quoi.
Ça ne rentre dans aucune nomenclature de la sécurité sociale.
C'est mon petit cadeau à chaque fois, tous les soirs.
C'est ça. Question suivante, ton meilleur fou rire au travail.
Alors, mon meilleur fou rire au travail, en fait, c'était pas du tout drôle, mais pas du tout. C'était à l'hôpital, justement, quand j'étais dans ce service, où 2 semaines de suite, le même patient a été pris au bloc. Et premier retour de bloc, il saigne. Et un patient qui est trachéotomisé, c'est-à-dire un patient qui a un trou dans la gorge, une des premières choses qu'on apprend, c'est surtout faut pas se mettre en face. Parce que quand il tousse ou quand il saigne, et ben, on a tout ça dans la figure. Donc, ce patient fait un problème. J'appelle l'interne, qui était l'interne de chirurgie réparatrice, qui n'y connaissait rien du tout en ORL. Et on se débrouille tant bien que mal, on s'occupe de ce patient. Et ça se passe. Et la semaine d'après, même patient, repris au bloc, même interne, même problème. Et là, le patient me tousse dessus et me met du sang de la tête aux pieds. Mais couverte de... Et là, avec l'interne en face, on n'a pas pu s'empêcher de rigoler, quoi. C'était pas drôle, mais c'est vraiment le souvenir de fou rire que j'ai, quoi. C'est vraiment pas une situation drôle, mais on avait besoin, je pense, d'évacuer ce qu'on vivait. Et voilà, je me suis retrouvée à prendre une douche, à me laver les cheveux, à être à 9h du soir, juste avant de rentrer à domicile. Mais voilà, ça reste un bon souvenir quand même après des années. Et j'ai essayé de trouver une autre idée, mais c'était le fou rire qui m'a le plus marqué à ce moment-là.
C'était le plus marquant.
Parce que j'ai pas pu m'arrêter, et en même temps, le patient l'a pas mal pris, mais il voyait qu'on, voilà, finalement, on le prenait à la rigolade dans une situation d'urgence.
Puis il vaut mille fois mieux des rires que des, mon Dieu, d'imagine.
Ben j'allais pas lui crier, je pouvais pas lui crier dessus, c'est pas de sa faute. Et puis c'était la situation en fait, c'était deux fois le même patient, même situation, même interne,
les mêmes soignants,
était un peu perdu, même infirmière, c'était un truc voilà improbable et du coup ça a fini par devenir drôle quoi parce que voilà.
Et la dernière question, un titre de film qui résume ta carrière.
Alors, c'est juste le titre, hein, parce que le film en soi, il n'a pas grand-chose, mais c'est « La vie est un long fleuve tranquille », parce qu'en fait, non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ouais. Et on a des situations qui changent tout le temps, et voilà, donc j'ai pensé à ça. Après, je me suis dit « Ah, ça pourrait être le patient anglais, parce que la vocation de l'infirmière, c'est beau, il y a des belles images », mais non, en fait, « La vie est un long fleuve tranquille », ça correspond plutôt à ma carrière professionnelle, quoi.
Et t'as la sensation encore d'apprendre des choses tous les jours ?
Ah oui. Ben là, avec ce qui s'est passé ces dernières années, ça a été intéressant.
D'autant plus.
D'ouvrir le cabinet de nuit, parce qu'il est ouvert depuis 6 ans, donc c'est pas vieux, j'ai appris plein de choses. Voilà, ma formation de coordinatrice, j'espère que ça va m'apprendre encore plein de choses, et de faire autre chose, et de retrouver une équipe, et de retrouver un cadre plus administratif, m'éloigner des soins, ça serait bien aussi. Oui, on apprend tout le temps.
Carrément. Bon, alors qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite, Hélène ? Une reconversion si elle est souhaitée, une envie de d'ailleurs si elle est voulue aussi.
Voilà. Et puis, je sais pas, on verra. Je lance plusieurs perches.
Ouais.
Et je suis comme un pêcheur, je lance et puis je vois ce qui prend, ce qui arrive. Et puis on prendra le meilleur, quoi. Enfin, en tout cas, ce qui pour nous sera le meilleur, ce qui sera peut-être pas le meilleur pour tout le monde, mais ce qui nous conviendra.
Ce qu'il faut te souhaiter en tout cas, et à tous les infirmiers qui travaillent en libéral de nuit comme toi, c'est que vos soins soient valorisés, revalorisés,
oui.
Que votre travail soit pris au sérieux et qu'on ne s'imagine pas qu'en fait tous les jours vous êtes en train de carotter la sécurité sociale juste parce qu'en fait il y a des gens qui demandent juste à être couchés à une heure décente ou ce genre de détails quoi.
C'est ça, enfin juste, en fait si on veut faire vraiment du maintien à domicile, il faut qu'il y ait la même qualité de soins en EHPAD et à domicile, donc ouais. c'est aussi des soins ou une surveillance la nuit.
Il faut se donner les moyens pour que ça fonctionne, quoi.
C'est ça. Et je pense que... Je me dis que mes patients, ils ont de la chance, oui et non. Parce qu'ils n'ont pas de la chance, c'est juste normal. Mais je souhaite que tous les patients puissent bénéficier de ça, quoi.
Complètement. Complètement. Mais... Ben voilà, à bon entendeur. Hein.
Voilà, à bon entendeur, exactement.
Merci beaucoup, Hélène.
Je t'en prie, avec plaisir.
À bientôt.
À très bientôt.
Hélène m'a confié en off vouloir créer un groupe de parole qui permettrait de rassembler tous les infirmiers libéraux de nuit. Alors si vous êtes dans la même situation professionnelle qu'elle, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me laisser un petit mot sur Instagram. Je serai ravie de pouvoir vous mettre en contact. Le podcast prend une semaine de vacances pour les fêtes et je vous donne donc rendez-vous le mardi 3 janvier 2023 pour un nouvel épisode. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année.